répression, bas, pâle et main de fer dans un gant d'acier. Libre Radio, la radio qui comprend et qui accepte. www.libradio.org.
Nous voici donc à l'antenne et en direct pour les injonctions paradoxales dont je suis l'émetteur, paraît-il. C'est à la tech où on m'insulte de la sorte. C'est dur comme ça d'être isolé à ce point-là, la radio. Enfin. Bah ouais. Fallait s'y attendre en même temps. Hein, ouais. Voilà, alors nous en sommes arrivés à la quatrième et dernière partie, cinquième partie de cette émission du samedi 7 avril 2018. Et alors, nous allons parler maintenant, nous parlons pour la dernière partie de cette émission du SPMI. Alors, l'acronyme SPMI, désigne le service suivant, le service de protection des mineurs. Alors que des dysfonctionnements y sont constatés, qu'en est-il des intérêts des enfants et des familles ? On va le voir maintenant, on va donner la parole à des personnes qui sont parmi nous et qui vont s'exprimer. Alors les personnes, eh bien déjà je vais les présenter et puis vous vous présenterez vous-même un petit peu plus à fond. Je voulais juste peut-être préciser encore que le SPMI, donc c'est donc le service de protection des mineurs, abrégé en SPMI donc, de l'Office de l'enfance et de la jeunesse, qui a pour mission, ça c'est sur leur site, hein, d'assister la famille dans sa tâche éducative, de veiller aux intérêts de l'enfant et de les protéger en collaboration avec les parents et quand cela s'avère nécessaire, en sollicitant des mesures judiciaires. Dans ce cadre, il assure les prestations suivantes : des interventions socio-éducatives auprès des familles avec ou sans mandat judiciaire, des informations aux parents et évaluation sociale lors des procédures de séparation et de divorce. Et ces prestations peuvent aller du simple conseil, bam, à une prise en charge sur le long terme ou à l'application des mesures et mandats ordonnés par les instances judiciaires civiles et pénales. On en parle maintenant et on en parle avec Ayette. Bienvenue à toi Ayette, avec Charlotte. Bienvenue également.
Merci.
Charlotte.
Bonjour.
Et bonjour, et avec Sania. Bienvenue. Bonjour. Également à toi. Alors Sania, si j'ai bien compris, toi tu vas un peu moins intervenir, mais voilà, tu as voilà, disons
oui,
présentez-vous.
Disons que je suis ici pour soutenir mes collègues parce que nous faisons partie de la même liste. J'aurais peut-être des choses à dire, peut-être une ou deux questions à poser, éventuellement selon la discussion qui s'engagera. Mais ce sujet-là est plus porté par mes deux colistières, d'une part à cause de leur vécu et d'autre part à cause de leur rôle. L'une est maman, l'autre a une situation familiale qui a eu... Enfin, une situation familiale à cause de laquelle elle a toujours affaire avec le SPMI. Donc, ce sont des vécus en fait qui vous seront exposés. Et moi, je suis plus en observatrice. Je suis scandalisée par certaines informations que j'ai eues, que j'ai obtenues récemment, qui ont été justement transmises via la presse, notamment une émission de télévision récente où j'ai appris des choses que je ne connaissais pas, qui me choquent. Par rapport à mon action actuelle, qui est le fait de mener campagne pour me présenter au Grand Conseil sur une liste citoyenne. Nous, évidemment, ça ne nous laisse pas indifférents. Et puis, on espère que si on est élu, qu'on pourra, déjà dans notre programme, on demande en fait un audit du SPMI en raison des problèmes qui sont arrivés à nos oreilles. Mais on espère qu'on pourra apporter des solutions pour ce service. Je ne dis pas que tout est simple pour ce service, mais voilà, il faut que les choses s'améliorent, changent pour le mieux des familles, en fait, qui sont confrontées à ce service.
Oui. Alors on va
Mes deux collègues vous parleront en plus en détail de tout ça.
On va juste préciser, quand on dit liste, c'est parce qu'il s'agit de la liste numéro 13, égalité et équité.
Oui, tout à fait.
Qui est candidate aux élections au Grand Conseil du 15 avril prochain.
Qui est une liste citoyenne et qui est née justement sur la base des problèmes que nous avons pu, chacun de notre côté, constater dans la vie de tous les jours. Puis on a juste envie d'adresser ces problèmes, d'en parler, de les amener là où les décisions se prennent pour... changer les choses pour le mieux.
Absolument, on a bien compris. Alors peut-être que Charlotte et Ayette, voudriez-vous vous présenter chacune à votre tour un petit peu plus pour que l'on comprenne bien qu'en est-il du SPMI et de votre situation par rapport à cela. Qui veut commencer ? Peut-être Charlotte. Alors on y va.
Bonjour, moi je m'appelle Charlotte, donc je suis partie de la liste Égalité et Équité, la liste 13. Et donc ma nièce s'est fait enlever par le SPMI et c'est notamment ça qui a provoqué le fait que je veuille me présenter en fait avec la liste 13 et me lancer donc aussi en politique.
Alors peut-être voudrais-tu nous en dire déjà plus concernant cette situation, que s'est-il exactement passé ?
Alors le 6 décembre 2017, ma mère, donc la grand-mère de ma nièce, l'a accompagnée au port en compte voir son père comme d'habitude. C'est 2 heures de temps, après elle vient la rechercher et puis voilà. Mais le SPMI a profité de ce moment-là pour la kidnapper, vu que c'est un enlèvement, c'est un kidnapping. On n'a rien reçu de lettre de quoi que ce soit pour nous dire même quoi que ce soit en fait. Rien.
D'accord, ok. Et vous...
Donc c'est
pardon.
Une séparation brutale qui la sépare de sa mère, de sa famille, où elle est aimée, elle mange sainement, elle va skier, c'est un enfant qui est heureux, plein de vie. Pour moi, ils ne sont pas là. Enfin, pour moi, quand je vois que le SPMI ose faire un truc comme ça, je me dis juste qu'ils ne sont pas là pour les enfants, ni dans l'intérêt des enfants, ni dans l'intérêt des familles. Ils sont là pour leurs intérêts et on ne sait pas ce qu'ils font avec les enfants. Moi, je n'ai pas confiance en eux par rapport à ce qu'ils ont fait là. Moi, j'ai confiance zéro, en fait.
C'est-à-dire que là, donc, sait-on où elle vit actuellement ?
Ouais, on ne sait pas où elle est. Ils ne nous ont pas dit où elle était. Quand, en fait, je vous raconte vraiment. Donc, le jour où ils l'ont enlevée, moi, je me suis habillée en 5 minutes. Je suis descendue directement au SPMI. Arrivée là-bas, il y a les deux chefs de service qui sont venus 10 minutes après. Deux chefs de service, d'ailleurs, qui sont français. Ça, c'est aussi important, je trouve, de le dire. Et ils nous ont simplement dit, moi je leur ai dit qu'ils n'avaient pas le droit de faire ça, on était effondrés, on pleurait, enfin on était vraiment à bout. Et donc j'étais avec ma mère et ma sœur, donc la fille de ma nièce, c'est la fille de ma sœur. Et du coup, les chefs de service nous ont simplement dit qu'ils avaient tous les droits. Elle m'a dit dans les yeux comme ça, avec un petit sourire même sur le côté, donc aucune compassion de quoi que ce soit en fait. Ils sont vraiment là dans le but de briser les familles, avec un petit sourire en nous disant... qu'ils avaient tous les droits, les mêmes droits qu'un juge. Voilà.
Et donc, de leur propre chef, ils ont pris ces décisions-là. Donc, ce n'est même pas un mandat, une décision judiciaire, ouais, rien du tout.
Rien
c'est vraiment de leur propre chef.
On n'a rien reçu.
Et du coup, depuis, pas d'information blackout ?
Pas d'information. Quand on arrivait là-bas, ils nous ont dit... on leur a demandé où est-ce qu'elle était. Ils nous ont informé qu'elle était justement à l'hôpital. Pourquoi à l'hôpital ?
Ok, donc ils vous ont dit, elle est à l'hôpital, mais on ne sait pas pourquoi.
Non, alors...
Alors qu'elle était en bonne santé avant qu'il l'enlève de la famille. Ce qu'il faut préciser quand même.
D'accord, mais...
Donc, avant que je descende en fait de la SPMI, exactement, ils nous ont appelé. Moi, c'est comme ça que j'ai appris ça. J'étais chez moi, ils ont appelé, oui, bonjour, aussi le SPMI, elle a dit son nom, chef de service. Puis elle m'a informé, alors je vous informe simplement que donc, votre nièce ne vivra plus avec vous, voilà, comme ça.
Et, mais
voilà.
Vous...
Sans raison, rien. Okay. Elle nous a dit qu'elle irait à l'hôpital en attendant qu'il leur trouve une famille, qu'il lui trouve une famille d'accueil. Trouver une famille d'accueil à un enfant qui vit avec sa mère, sa famille, ses grands-parents.
Et la famille n'a pas de problème connu, recensé ou quoi ou
non. Elle est... rien.
Non. Mais il y a certainement, enfin je sais pas, vraiment je suis totalement profane dans la matière, mais y a-t-il des manières de recourir à cette décision ?
Oui, alors quand on est donc descendu au SPMI, on est directement allé, il y a un poste de police à la rue Sainte-Clotilde, on est allé là-bas. Le monsieur qui nous a reçu nous a directement dit qu'on ne pouvait même pas déposer plainte. Il faut qu'on ait un avocat pour déposer plainte, il nous a dit.
D'accord.
Donc, ce qui est faux déjà, parce que n'importe quel citoyen, il a le droit de déposer plainte seul. Donc c'est choquant comme information.
Absolument. Et du coup, alors on va revenir là-dessus. On va d'abord laisser Ayette se présenter, puis on va revenir là-dessus, effectivement.
Bonjour.
Bonjour.
Je m'appelle Ayette Abès. Je suis mère au foyer. Je rejoins ce que vient de dire Charlotte. Il y a 164, enfants et adolescents à l'hôpital aujourd'hui parce qu'il manque de place. 146, pardon.
Alors, 146 enfants qui sont à l'hôpital. Alors
à l'hôpital, qui attendent des places dans des foyers. Et je pense que le SPMI...
Ou famille d'accueil.
Ou famille d'accueil, donc... Alors, au lieu de ça, je pense que donc ils prennent des enfants des fois à tort, pour rien du tout, pour oui ou pour non. Hein, pour même le plafond, quand il y a un trou, ils prennent un enfant. Et ça, je trouve que inadmissible. En même temps qu'ils mettent les enfants à l'hôpital. Alors,
je trouve que c'est.
Voilà.
Comment est-ce qu'une décision peut apparaître? Comment est-ce que la décision se forme? Enfin, je veux dire, il y a des gens qui viennent voir, ils disent moi, je. Parce qu'il devrait y avoir des procédures pour ça. Enfin. Je veux dire, une personne peut décider d'elle-même de dire je constate que les conditions sont défavorables à l'enfant et donc je décide qu'il doit être pris. Et ça, c'est une décision d'un individu.
Ben, on ne sait pas exactement qui a décidé ça, mais nous, on a écrit en tout cas une lettre, une très bonne lettre, vraiment bien bien écrite à la juge justement qui a décidé ça. On lui a demandé, basé sur quoi est-ce qu'elle a choisi de faire ça.
Exactement.
Elle nous a simplement répondu avec que des articles de la loi en ne répondant à aucune de nos questions.
Ok, alors du coup, vous vous êtes regroupés pour essayer de donner plus de force à vos arguments au sein de la liste 13 ou également au sein d'une association vraiment dédiée à ça?
Bah, personnellement, moi, je ne connais pas d'association.
Non, d'accord. Donc, c'est vraiment au sein de la liste 13 que vous portez ce combat-là.
En fait, c'est dû au hasard parce que Charlotte avait aussi répondu dans un premier temps à l'appel de la liste des femmes. Ça n'a pas joué ni pour elle ni pour moi pour que nous continuions en fait notre démarche avec la liste femmes. Et moi, j'avais fortement envie de poursuivre en fait, de me présenter au Grand Conseil. Et j'avais rencontré Charlotte en fait dans le cadre du recrutement pour la liste femmes. Elle m'avait déjà ce soir-là parlé de son problème, ce qui m'a paru très choquant. Et je l'ai relancé quand je me suis mise à chercher en fait des personnes motivées à se présenter en politique, novices en particulier. Et elle a trouvé que par rapport à ce qu'elle vit, vu que ses démarches via l'avocat ou en direct avec la juge, ça n'apporte rien, bah peut-être que l'engagement politique est la façon appropriée d'empoigner le problème.
Peut-être, effectivement. Parce que
voilà,
là,
c'est comme ça qu'on a formé le groupe. Mais le groupe n'a pas été formé sur la base du SPMI de la problématique SPMI. Mais disons que c'est une problématique qui a été identifiée dans le cadre de nos discussions et qui figure sur notre programme parce que nous demandons, si nous sommes élus, effectivement, un audit du SPMI ainsi que de l'Hospice Général, qui est aussi une autre institution où on estime qu'il y aura probablement des choses à revoir et à modifier.
En tout cas, là, il y a des zones d'ombre qui sont inacceptables, indubitablement.
Oui. Moi, j'ai voulu parler surtout de la mère au foyer, la mère seule. Moi aussi, suite à un événement que j'ai eu. J'ai commencé et puis je fais souvent le social dans la rue. Je parle souvent avec des femmes, ils me confient leurs problèmes où on a les mêmes presque problèmes, c'est surtout les femmes seules avec un adolescent. J'ai constaté, c'est-à-dire que la femme, la mère seule qui élève son enfant seule, dès qu'elle a un problème, elle est mal écoutée, elle est mal considérée en tant que mère au foyer, qui c'est pas facile, éduquer un enfant tout seul, c'est pas facile. Et puis dès qu'elle a le moindre problème, si elle fait appel à la police par exemple, elle est mal écoutée, elle est dans un stress, au lieu de l'écouter, ils les stigmatisent comme quoi c'est sa faute si son fils il est comme ça. Donc c'est votre éducation, c'est ce qu'on entend de la part de la police quand on fait appel juste pour calmer l'esprit de l'enfant ou faire quelque chose. Donc ma voisine, elle me dit, écoute, si il ne te répond pas à la police, tu appelles ton ex-mari. C'est-à-dire, on est de nouveau de retour au sexisme. C'est-à-dire, je dois être avec un homme, sinon je n'ai pas mes droits. On ne m'écoute pas. Et j'ai dit, mais on va perdre notre acquis, nos droits en tant que mère. La mère, c'est le pilier de la société. S'il n'y a pas ça, qu'est-ce qui nous reste de beau sur cette terre? Oui. Et puis ça m'a effrayée parce que moi je suis de culture où on respecte la famille et tout. Alors je me suis trouvée avec il y a rien quoi. C'était quelque chose qui m'a énormément touchée et ça m'a fait très mal. Et là j'ai commencé à voir si je trouve une association, quelque chose. Je ne me suis pas vraiment intéressée.
On va peut-être en créer une après. Là, on est en campagne, on est assez occupé.
Oui, voilà. Après, j'ai pas. Donc, au départ, quand j'étais pas bien. Et donc là, j'étais avec la liste et puis j'ai trouvé donc
Sania,
ma collègue.
Et,
ouais. Sania.
Oui, elle était aussi passée par la liste femme.
Par la liste femme.
Bon, donc, ce qui est bien, c'est que là, effectivement, l'idée, c'est de révéler, c'est de faire surgir cette problématique-là pour ensuite pouvoir, effectivement, que les personnes se regroupent.
Voilà,
et, etc.
Je fais de moi-même, donc toute seule, je parle à toutes les femmes pour les motiver à parler, à ne pas rester dans l'ombre et à parler de tous ces problèmes-là.
Absolument.
Parce que de plus en plus, la femme en Suisse, elle est plus, surtout la mère, elle est plus considérée. Elle est plus, je trouve que c'est inadmissible.
Ouais.
Et si la police elle est débordée, il doit trouver une alternative pour aider ces femmes qui sont dans la détresse. Ça ne veut pas dire qu'elles crient ou que dès qu'elles parlent, on lui dit « tu cries ». Tu cries. C'est pas qu'elle parle, mais elle est en détresse et même le gendarme doit être psychologue, doit apprendre au moins ou faire une alternative pour écouter ces mères qui sont dans la détresse. Son fils, il sort vers 2h du matin ou minuit. Alors, la réponse, c'est que vous criez, madame. Vous criez. On ne crie pas, on est en détresse, on s'inquiète pour nos enfants et la police doit être à l'écoute à ces femmes-là. Absolument. Moi, comme d'autres femmes,
la
comme
police
d'autres
actuellement,
mères de famille.
Parce que la police n'est peut-être pas la meilleure des réponses. C'est justement le constat que l'on fait, c'est qu'il y a soit des cas que l'on déclare fous ou incapables ou inaptes et qui vont passer par des institutions prévues légalement à cet effet, soit il n'y a aucun problème et... continuer à circuler. Et c'est un peu ce que Hayette, elle décrit, c'est qu'elle est un peu entre les deux chaises. Elle a des difficultés. Il faudrait peut-être qu'il existe des services de médiation dans toutes les communes et dans tous les quartiers.
Absolument,
ils sont actuellement mis en place uniquement vraiment pour des personnes qui sont un peu dans la rue, qui traînent dans la rue. Il faudrait que ce service-là soit vraiment au service des familles. Mmh. C'est-à-dire quand une famille ne veut pas entreprendre des procédures drastiques contre un adolescent ou un membre de famille qui est un peu problématique, mais veut continuer à le soutenir, à aider, il faudrait que quelqu'un de l'extérieur, sans qu'on déclenche des procédures judiciaires lourdes et coûteuses, puisse être là, à l'écoute. C'est peut-être pas le travail de la police. Alors, Hayette, elle parle de la police parce que actuellement, c'est un peu le seul ressort. Et donc, effectivement, elle n'a pas eu l'écoute en face qu'elle aurait voulu et qu'elle aurait eu besoin d'avoir. Mais comme elle l'a constaté elle-même, elle sait que la police est débordée. Donc, qu'il faut parler d'autres solutions.
D'autres solutions.
Est-ce qu'on pourrait dire qu'il faudrait à peu près l'équivalent des TSHM pour les jeunes, donc des travailleurs sociaux hors mur, qui soient à disposition et qui soient justement un peu plus en direct sur le terrain pour pouvoir recenser et accompagner des personnes. Parce qu'effectivement, on sait qu'il y a l'école des parents, qu'il y a des structures qui existent, mais qui nécessitent qu'on entre dans un endroit, qu'on
fasse extrêmement
quand même...
difficile.
Et voilà, effectivement, c'est
moi,
très,
je peux vous
dur.
Parler de ma situation personnelle qui est pas simple non plus. J'ai une sœur cadette qui a donc 30 ans cette année. Et j'ai pas mal de difficultés pour des raisons que je ne souhaite absolument pas évoquer ici. Mais toujours est-il que je ne souhaite pas la mettre dans un plus grand embarras en la virant de ma maison, même si la vie au quotidien, elle n'est pas simple. Quand j'ai cherché à savoir s'il y avait un service de médiation, oui, il en existe un, mais il est payant. Alors quand vous n'avez pas les moyens, quand vous n'avez pas un salaire qui vous permet de vous offrir ce service-là, vous n'avez aucune aide en fait. Ouais. Alors mes alternatives, c'est quoi ? Appeler la police quand ça ne va pas ou demander au tribunal de la protection des adultes et des enfants une protection sévère ? Ce n'est pas du tout vers quoi je souhaite tendre et je ne pense pas non plus que ça soit la solution pour elle. Mmh. D'ailleurs, j'ai dû m'engager envers elle que je n'entamerai jamais une procédure pareille. Mais je trouve aussi qu'une certaine confiance entre des personnes, même qui s'entendent mal, doit exister si on veut trouver une solution.
Et donc, ça, le SPMI aurait dû, devrait, dans l'idéal, recouvrir ce rôle-là ?
Alors, le SPMI, c'est pour les mineurs seulement. Ma sœur, en l'occurrence, elle est majeure, donc c'est un autre cas. Mais via ma situation et celle de Hayette, qui a un fils mineur, j'ai constaté que peut-être les solutions qui sont à notre portée actuellement ne sont pas les bonnes. Ouais. Et qu'un service de médiation, enfin une personne extérieure au quotidien, au conflit, qui n'est pas un juge, mais qui connaît quand même ce type de situation et qui a l'éducation nécessaire pour pouvoir pallier à ces problèmes, pourrait amener beaucoup de bien à ces familles sans que l'on doive placer les enfants, sans que l'on doive recourir par des mesures strictes via des tribunaux contre eux. Et c'est le constat que nous faisons.
Et ça, on peut dire que la liste 13 eh bien, porte justement ce type de revendication.
Excusez-moi, j'aimerais rajouter aussi quelque chose. On devrait impliquer les parents avec les enfants dans le foyer. Si ne serait-ce que même s'occuper, donc la mère, si on prend l'enfant pour une raison ou d'autre, momentanément ou je ne sais pas, à long terme, on devrait, donc, pour un peu alléger les foyers, mettre des parents qui s'occupe, une mère qui s'occupe de son enfant sur place avec une surveillance. Pourquoi pas ? Moi, j'ai vu un reportage en Allemagne qui faisait ça et ça marche très bien. Et après, la mère, elle se rétablit parce que, je me souviens, dans le reportage, elle a peur de taper son fils, sa fille. Alors, la mère, elle était là à s'occuper de sa fille avec donc des surveillants et ça marche très bien pour la mère comme pour l'enfant. Pourquoi pas ici on fait pas ça? Pourquoi ça reste toujours l'anonymat? Toutes les mères ici à Genève, ils ont peur même d'aller poser plainte ou autre, qu'on prend leurs enfants. Toujours non, mais ça me j'ai peur qu'on prend mon enfant, j'ai peur ci, j'ai peur ça. Toutes les mères, ils ont peur. Alors que normalement, on devrait mettre les parents avec le problème et ça les aide, eux, comme nous. Comme nous, on ne reste pas comme ça, on ne prend pas l'enfant et au revoir et merci.
J'aimerais
ça
juste préciser à Ayette que ça existe aussi à Genève. Donc, quand on dénonce les choses, c'est important aussi de les dénoncer dans le cadre existant. Mais nous ignorons si c'est généralisé parce que ce qu'elle propose, c'est que ça soit... que ça soit encore plus appliqué à une plus large échelle qu'actuellement. Actuellement, ils en ont parlé dans l'émission que je viens de mentionner tout à l'heure. Ils ont parlé de cas où il y a aussi les parents qui accompagnent en fait un placement d'enfants, où on essaie d'aider les uns et les autres, mais ça doit être, selon ce qu'on a compris, des exceptions. Oui. Et nous, on trouve, et la proposition d'Ayette, elle est très très bonne, qu'il ne faut pas séparer le lien de sang. Il ne faut pas détruire une famille. Au contraire, il faut tout mettre en place pour ressouder le lien s'il est brisé ou s'il est déficient. Et accompagner et l'un et l'autre et offrir aussi pour valoriser par exemple une mère ou un père qui est peut-être qui en manque de confiance ou qui rencontre certains problèmes, le valoriser dans sa démarche vis-à-vis de son enfant. Et ça pourrait avoir que des effets positifs pour les deux.
Absolument, tout à fait. Donc là, ce qu'on dénonce, pour le moins, c'est en tout cas le manque d'infrastructures, d'une part, et puis ensuite l'attitude qui est souvent une attitude qui manque, qui est celle d'une judiciarisation, quasiment d'une criminalisation des personnes qui recourent, qui tentent de recourir à ces services, puisqu'elles ont parfois, elles y vont la peur au ventre de se voir assignées en tout cas qu'on leur retirent leurs enfants, tout simplement.
Bien sûr.
Oui, oui. D'accord, je comprends.
Et puis, il y a une chose, c'est que une fois, je me souviens, c'est de la discrimination aussi, ou je ne sais pas. Moi, je suis d'origine tunisienne. Mon fils, il est né ici. Donc, il vit ici. Il mange comme tout le monde ici. Il fait ce que tout le monde fait ici. Alors, elle m'a envoyé une personne proche de ma culture.
Oh.
Ça m'a vraiment touchée. Et cette personne, elle a commencé à lui parler. C'est comme si elle parle à quelqu'un qui est attaché à son pays, attaché à ses cultures. Alors que ma culture, c'est le monde et j'ai transmis ça à mon fils. Et donc, cette personne, si vous voulez, il y a un décalage entre Fatima et mon fils. qui est donc thérapeute à la maison. Et je rajoute encore une chose importante. Il faut absolument mettre des hommes, parce qu'il manque des hommes dans le SPMI, il manque des hommes. Ils ont besoin, les garçons adolescents, ils ont besoin d'un homme, parce qu'il y a le manque de présence du père.
Oui,
et quand
masculine.
Ils voient un homme, ils sont rassurés, ils sont plus confiants, ils avancent. Mais toujours, toujours, partout où on va, c'est une femme. Une femme, surtout pour l'éducation, l'enfant, à cet âge-là, il a besoin d'un homme. Je trouve que ça manque beaucoup et énormément. Et c'est très important. D'ailleurs, mon fils, il me dit, pourquoi il y a toujours des femmes? Pourquoi il n'y a pas un homme? Ça les aide même à être... ça les aide d'imaginer que c'est son père. Laisse-le imaginer. L'enfant, il grandit avec l'imagination. Et puis, ils devront mettre plus des hommes dans le SPMI qui viennent à la maison, qui discutent avec donc l'adolescent et qui l'attend. Moi, j'ai vu en France qu'ils le font et ça marche. Il n'y a que ici. Et qui ne doit pas regarder la nationalité de la personne pour envoyer une personne qui correspond à sa culture. Donc ça, je trouve que c'est pas vraiment constructif.
Donc pour rebondir là-dessus, je reviens sur ce que je viens de dire tout à l'heure. Je trouve qu'un service de médiation, quelque chose qui est en dehors de ces structures lourdes et qui dysfonctionne de surcroît, serait vraiment la bonne réponse et un bon appui pour des familles en difficulté passagère pour la plupart.
Absolument, parce que voilà, comme tu le dis, c'est souvent des problèmes passagers. Je veux dire, les années passent et les choses se rétablissent dès lors que si, en plus, une structure existe qui peut accompagner dans les moments un peu complexes de la vie, voilà, ces périodes-là.
J'ai pas mentionné tout à l'heure, une personne a été invitée ici à cette émission. C'est un père de famille donc, à qui ses enfants avaient été enlevés dans un premier temps par le SPMI, notamment suite à la plainte donc, de son épouse de l'époque. Et j'ignore pourquoi il n'a pas pu venir. Je regrette le fait qu'il ne soit pas là parce qu'il avait aussi un témoignage important à apporter par rapport à son vécu. Donc il s'agit de Shadi Aman. Il est le président ou la personne qui a lancé une association qui s'appelle le Printemps de l'égalité coparentale en Suisse, PECS, Genève. Mm-hmm. Il y a un groupe Facebook justement. Lui, il a vécu toutes ces difficultés, mais de son côté. C'est-à-dire, il n'y a pas que les femmes qui subissent, il y a aussi les hommes qui subissent, effectivement. Ouais.
On reviendra là-dessus lorsqu'il pourra se libérer. On reconduira un truc radio.
On espère qu'on pourra lui offrir une prochaine occasion l'opportunité de s'exprimer à ce sujet. Mais c'est un sujet assez important et qui touche beaucoup de monde.
Ouais. Comme il nous reste déjà plus que 6-7 minutes, j'aimerais qu'on revienne justement à ces enfants, Charlotte, à ce cas-là. Et puis peut-être quelques mots sur ces 146 enfants qui sont, si j'ai bien compris, confinés à l'hôpital et dont on ne sait que faire finalement. Peut-être, Charlotte, voudrais-tu continuer?
Moi, j'aimerais dire déjà que le plus gros problème qu'il y a, ce n'est pas un manque de personnel, c'est un manque de compétences, en fait. Et puis, c'est pour ça qu'il y a deux visages du SPMI. Il y a ce qu'ils montrent à la télé, toujours dans les journaux aussi, en mode bisounours. Ils essaient toujours un peu de se décharger, en fait, de leurs actes. Mais on ne peut pas dire qu'il y a trop de travail, qu'ils sont overbookés, qu'il y a trop de ceci, quand ils vont enlever des enfants qui n'ont pas besoin d'être retirés à leur famille, en fait.
Ouais, ça c'est.
C'est juste de la. C'est juste pour traumatiser les enfants et détruire les familles. Pour moi, je vois rien d'autre. Et puis il y avait une émission Faut pas croire qui était passée en mars sur la RTS où justement il y avait donc un des chefs de service du SPMI, Monsieur Pierre-Yves Aubert, qui disait qu'il fallait maintenir les enfants dans leur milieu familial, mais même ça, c'est faux, vu qu'ils ne le font pas, en fait.
Et c'est ça, ouais.
Donc, encore une fois, c'est que des faux témoignages.
Donc, il y a le discours et puis il y a la réalité. Et c'est ça qui dérange.
Ouais, donc, toujours ces faux témoignages, alors qu'il n'y a aucune assistante de rien, vu que nous, ils nous ont bien dit qu'on ne verrait plus ma nièce, un enfant de 3 ans, comme ça.
Non, mais c'est pas possible.
Moi, j'ai pris des photos, on a allé à l'hôpital voir, j'ai pris des photos de comment elle était. Pieds nus, dans un pyjama sale, à 16h de l'après-midi. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Qu'est-ce qu'elle fout en pyjama, pieds nus, dans un hôpital, donc il y a des enfants malades, etc.
Alors qu'une famille s'est très bien occupée d'elle jusqu'au moment où...
En plus, c'est un enfant, on est une famille africaine, donc les grands-parents, ils ont un rôle important, enfin, toute la famille a un rôle important dans l'éducation de l'enfant, dans la culture, etc., tout, lui apprendre la langue, etc., donc... Là, c'est vraiment un gros coup de massue, en fait. Et ça fait vraiment mal quand vous dites que vous payez des impôts, que vous êtes toujours réglo, que vous vous pliez, en fait, à l'État et à leurs exigences. et qu'un jour il arrive un truc comme ça, qu'est-ce que ces gens feraient si on venait leur prendre leurs enfants?
Et oui. Et là, est-ce que vous entrevoyez quelque chose à faire, si ce n'est effectivement alerter un maximum de personnes et des médias également? Ouais. Mais qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à faire comme ça?
Bah, on a déjà pris un avocat vu que.
Oui, il y avait la question de l'avocat. Hein. Voilà, mais bon, puis... ça a un coût.
Déjà, ça a un coût, mais bon, heureusement, il y a l'assistante juridique, même si ça prend aussi du temps, et voilà. Il y a l'assistante juridique, donc on a, grâce à ça, on peut quand même prendre un avocat. On avait une avocate qui nous a dit que tout allait bien se passer. Au bout de 2 mois, elle nous a lâchés.
Pour
au
quel
bout de
motif,
deux mois, elle a remarqué qu'il y avait un conflit d'intérêt. Au bout de deux mois.
D'accord, ouais, donc il y a
mais
vraiment des problèmes.
Il n'y a pas de conflit d'intérêt. Moi, je sais très bien que ça n'a rien à voir avec un conflit d'intérêt.
C'est une fuite.
Voilà, non, mais c'est quelqu'un qui lui a dit que si elle prenait cette affaire-là, son office, elle allait sauter. Et puis voilà. Donc, encore deux mois de perte de temps énorme et des espoirs encore qui tombent. Enfin, de nouveau, un coup de massue, en fait.
D'accord.
Voilà le parcours de combattant d'un citoyen lambda qui se bat pour ses droits.
Ouais. Est-ce qu'on veut revenir quelques instants sur la situation de ces enfants qui sont confinés à l'hôpital alors qu'ils ne devraient pas du tout y être, en fait?
Oui.
Qu'est-ce qui les attend, ces enfants-là? Est-ce qu'ils vont être replacés? Quelles sont les conditions? Parce que là, ce que vient de dire Charlotte...
Moi, j'ai vu le reportage. Ces enfants,
ça,
je vais vous expliquer.
Au SPMI, hein.
Ces enfants-là, les plupart, donc, parce qu'il manque de place dans les foyers... À cause, parce qu'il y a un problème d'addiction. Dernièrement, les problèmes ont changé, hein, des adolescents et puis d'autres enfants. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui ont des problèmes d'addiction. Normalement, on devrait trouver quelque chose qui les aide, plus importante que... donc, ils deviennent violents. Moi, le mien, il est devenu violent. Après, donc, quand il est devenu addict au jeu. On a failli le placer, mais une fois, maintenant, actuellement, elle est chez ma sœur pour me relâcher un peu. Mais sinon, les autres, donc, ils sont la plupart à l'hôpital, donc 146 personnes, enfants, adolescents et puis enfants, manquent de place. Mais normalement, on devrait trouver... d'autres alternatives, d'autres, donc il faut les aider d'une autre manière pour ne pas justement manquer de place dans les foyers pour d'autres cas plus graves, plus importants.
Et en plus, au niveau
et
du coût,
c'est ça le problème.
C'est plus de 1000 francs par jour, par enfant. C'est énorme. Ouais. Énorme.
Donc là, on sent bien qu'il y a
vous
un
allez,
problème structurel.
Je m'excuse,
hein,
de, si oui, vous allez au SPMI maintenant, c'est plus les mêmes personnes. Donc les pères, les mères, c'est des gens... au placé, qu'ils ont leurs enfants qui ont des addictions. Et suite à ça, ils sont violents. Et au lieu de trouver donc, une chose qui est plus adéquate à ces enfants, on est obligé de les placer, puisqu'ils ils deviennent violents, ils sortent, ils ne reviennent plus et tout. Donc, à mon avis, trouver, faire quelque chose maintenant plus importante pour ne pas justement dépenser de l'argent pour les mettre dans des foyers, ça ne sert à rien. C'est des enfants, c'est des adolescents qui ont un problème.
Il faudrait presque
différent.
Les occuper un peu plus parce que
ils tombent
très facilement dans les addictions.
Leur donner
de
une responsabilité surtout.
Mais malheureusement, ça existe déjà, mais effectivement, de nouveau, à trop petite échelle, les petits jobs, des places comme ça, effectivement. Écoutez, nous, on arrive malheureusement doucement, il nous reste 3 minutes hein, au terme de cette émission. Moi, ce que je vous propose, c'est quoi qu'il en soit, nous, oui, bien sûr, vous aurez de toute façon la parole pour conclure. Je vous propose qu'on se retrouve pour parler plus à fond et on profitera pour réinviter le monsieur comme ça.
Il viendra certainement accompagner des gens de son association.
Voilà, on va d'ores et déjà que justement sur Facebook, il y a une page qui s'appelle Printemps de la coparentalité et que ça, on peut d'ores et déjà s'y rendre et puis collecter un peu des informations ou des témoignages et surtout
aussi
se proposer.
Devenir membre si le sujet... intéresse les auditeurs.
Absolument. Et puis nous, de notre côté, effectivement, on fera un travail. On va, en tout cas, pour le moins, demander au SPMI qu'il réponde à des questions précises que l'on collectera nous aussi, parce que, ils doivent au moins répondre aux questions qu'on leur pose bien légitimement. Écoutez, je vous propose que pour terminer cette émission-là, chacune de vous concluiez sur le point qu'il vous sied. Et puis ensuite, on rendra l'antenne. Alors, je ne sais pas qui veut commencer.
Ouais.
Alors Charlotte.
Alors moi j'aimerais bien qu'on nous dise qui a donné du pouvoir à ces chefs de service déjà pour qu'ils se permettent d'être confiants comme ça et d'enlever des enfants quand ça leur chante.
Ouais.
j'aimerais bien aussi que Madame Emery Torra-Santa nous dise, quand elle parle des emplois des jeunes voix là, dans ses discours à gauche à droite, elle ne parle pas des Français qui sont là. Donc elle parle des emplois des jeunes voix, mais là, quand on regarde au SPMI, il y a énormément de Français. Notamment, je pense à la DAS, en fait, et à ce qu'ils font. Donc on peut directement faire les liens entre la DAS, le SPMI. C'est facile d'enlever les enfants quand ils... Voilà, Mandias, elle est née en France, donc vous voyez encore plus d'accord. Ce conflit d'intérêts qu'il y a justement de leur côté, pas du nôtre.
Okay. D'accord.
Donc ça serait bien que ces gens-là prennent leurs responsabilités un peu, enfin même beaucoup, et qu'ils répondent voilà, de tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent être élus, mais pour faire quoi? Ouais. Ça fait combien d'années qu'ils sont là et qu'ils font rien, qu'ils ferment les yeux?
Okay. En tout cas, pas assez. Hein. Ouais, Madame Torra-Santa, elle a dit à plusieurs reprises que son service, il a mis en place des mesures, qu'il a obtenu des budgets. D'accord.
Elle est plus occupée à parler de Tariq Ramadan que de s'occuper des enfants. Hein.
Bon, c'était aussi une affaire d'actualité, ouais. Mais en tout cas, on attend encore plus de mesures et plus d'argent peut-être pour que les familles soient, pour qu'on s'occupe des familles encore plus convenablement.
D'accord. Merci beaucoup, Charlotte. Merci beaucoup, Sania. Et pour conclure, Ayette, à toi le mot de conclusion.
Je souhaiterais que la police... Quand une mère de famille fait appel à ses services, qu'il soit à l'écoute, un peu plus à l'écoute, quand elle est dans la détresse, et pas lui dire « Madame, vous criez
». Ouais. Donc un accueil bienveillant et puis attentif.
Voilà, à l'écoute et puis prendre le temps aussi, parce qu'ils sont trop stressés quand ils viennent donc, intervenir dans des cas comme ça. Et puis c'est tout. Donc.
D'accord.
Peut-être qu'une proposition serait aussi que la police se dote d'un médiateur elle-même ou d'une personne qui a des responsabilités à caractère social et que quand des appels de ce genre lui parviennent, ce ne soient pas des officiers ordinaires qui répondent en lien avec des crimes habituels, mais que ce soit quelqu'un qui est apte et volontaire à aider vraiment à faire le lien social dans ce cadre avant qu'il y ait peut-être une autre structure qui s'en charge.
Okay. Voilà. Et qu'il arrête de dire que c'est votre faute s'il est comme ça.
D'accord. Ouais. Ce sera le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup, Sania, Charlotte et Ariel.
Merci
d'être
à toi, William.
Jusqu'à nous, avec beaucoup de plaisir. Et puis, bien sûr, qu'on se tient au courant pour la suite des opérations. On regardera ici et là et on se retrouvera certainement rapidement. Merci à vous. Nous, on arrive au terme de l'émission. Donc, on salue évidemment, on remercie toute l'équipe de Fréquence Banane à Lausanne et à Genève. Merci également pour nous avoir permis aujourd'hui d'occuper l'antenne 30 minutes de plus, et on se dit à la semaine prochaine avec de nombreuses surprises, puisque la semaine prochaine nous serons de nouveau un petit peu ici et là en mode mobile au hackathon de Genève, mais on reviendra là-dessus la semaine prochaine. Voilà, ciao.